RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
16h04 sur RMC, bienvenue à tous, c'est l'Intégral Foot jusqu'à 18h. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live pour venir débattre, parler de cette actu foot avec nous. On salue le coach, salut coach Courbis.
Salut Arnaud, et salut à tous.
Bon, tu vois, c'est encore retardé de 24h cette arrivée de Neymar, parce que voilà, c'était censé être aujourd'hui, finalement ça sera demain. Il dit que pour signer son contrat de 5 ans, il va encore falloir régler des détails logistiques et familiaux. Bon, quand on lit un petit peu entre les lignes, tu sais, il y a cette histoire de la Liga qui remet en cause et qui empêche le paiement de la clause libératoire de Neymar. Encore mauvais joueur, hein, ces Espagnols, coach.
Ouais, mauvais joueur et mauvais perdant, si tu veux. Donc, on va pas le redire tous les jours, mais tant pis s'il faut. Ils n'ont pas l'habitude, ils ne pensaient jamais que ça pouvait leur arriver, et comme quoi, certaines choses n'arrivent pas qu'aux autres.
Tiens, réaction à l'instant de la Ligue de football professionnel, donc celle qui organise la Ligue 1 ici en France. La LFP s'étonne et ne comprend pas le refus de la Liga de simplement accepter le paiement de la clause libératoire de l'attaquant brésilien. Elle souhaite, cette LFP évidemment, la venue de Neymar dans le championnat de France de Ligue 1. Ils vont mettre les services juridiques à disposition du Paris Saint-Germain. Il va y avoir un petit contentieux qui va s'organiser forcément dans les minutes, les heures et les jours à venir. Décidément, c'est quand même un feuilleton assez rocambolesque. Tiens, on accueille Mohamed Bouafsi pour en parler. Salut Mohamed.
Salut Arnaud. Salut coach.
Salut Momo.
Explique-nous un petit peu tout ce qui s'est passé. On va accueillir Maître Grand Turco, avocat spécialiste du droit du sport dans quelques instants dans l'Intégral Foot. Explique-nous, remets-nous les choses un petit peu sur la table de manière claire, Mohamed.
Alors tout d'abord, coach, tu le sais, c'est un feuilleton, ce transfert de Neymar au PSG. Un feuilleton avec des rebondissements. Il était attendu aujourd'hui à Paris en milieu d'après-midi. Cependant, ce matin, plusieurs sources concordantes, que ça soit proche de Neymar ou dans l'entourage du PSG, nous ont contacté pour nous dire que finalement, il arrivait demain au PSG pour des problèmes logistiques et familiaux à Barcelone et qu'il fallait qu'il règle ça. Et quelques minutes après, on a vu les avocats de Neymar arriver au siège de la Ligue de football espagnole pour payer la clause de 222 millions d'euros. Cette clause qui a été directement refusée par la Ligue de football professionnel espagnole. Et la raison évoquée par les Espagnols, c'est la provenance des fonds, des garanties. Ils veulent des garanties sur la provenance des fonds. Mmh. Et donc, le président de la Ligue de football espagnole a expliqué qu'il ne voulait pas bloquer le transfert, qu'il n'en avait pas les moyens, puisque la FIFA peut très bien décider et valider le transfert, mais qu'il voulait des garanties. Clairement, il essaye de ralentir le transfert pour mettre des bâtons dans les roues du PSG, pour essayer de mettre un peu. Il essaie de montrer qu'il est tenace, qu'il ne veut pas lâcher Neymar aussi facilement. Et il y a quelques minutes, coach, la Ligue de football professionnel a communiqué.
Je l'ai expliqué, ouais.
Et ça montre bien qu'on est dans un transfert mondial et qu'à la Ligue aussi, à la LFP, eh bien ça dérange, ça énerve et la Ligue de football espagnole agace les dirigeants français.
Ouais, mais bon, si tu veux, on va rentrer dans tous les détails que l'on peut nommer et énumérer, mais chaque fois qu'il y a un détail supplémentaire, chaque fois qu'il y a un problème, ça fait un petit peu plus de pub, alors qu'on n'en a pas besoin. C'est déjà mondialement une bombe.
Hein, oui. Et tu le dis, tu le répètes depuis 3 jours, mais c'est voilà. Tellement ça, coach. C'est tellement ça.
Et chaque jour et chaque compétition, eh ben, rajoute un petit peu de pub à cette bombe.
Tiens, Mohamed, la petite bombe, demain, elle arrive à Paris. Donc, a priori, donne-nous tous des détails de tout ce qu'on peut savoir, de tout ce qu'il est possible de dire, en tout cas, aux supporters et aux fans de foot qui voudraient aller l'accueillir.
Alors, concrètement, ce retard de 24 heures ne change pas grand chose puisqu'il a passé sa visite médicale à Porto, qu'il ne manque plus que la signature sur son contrat et pour officialiser son transfert. Cette journée de jeudi, elle ne changeait pas grand chose dans le calendrier de Neymar puisque toutes les personnes qui sont dans l'entourage du PSG évoquaient une présentation pour les journalistes et une signature de contrat vendredi matin. Donc il est toujours attendu demain à Paris pour une possible présentation face aux journalistes demain après-midi et une signature de son contrat. Et c'est surtout la journée de samedi qui était importante avec cette belle fête, cette fête magnifique prévue par le PSG au Parc des Princes en marge de la réception d'Amiens pour la première journée de Ligue 1. Donc clairement en fait le calendrier ne change pas. aujourd'hui, on explique que, sauf bouleversement, il sera là demain et chaque jour, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Et c'est, il y a une grande peine chez les supporters du PSG en ce moment parce qu'ils l'attendent de pied ferme. Et ouais. nous, les informations, elles arrivent et elles nous expliquent qu'il sera là demain.
Mais la plus grande peine, c'est au niveau des supporters du Barça.
Ouais, ça c'est sûr. Juste coach, je reviens un petit peu sur le retentissement de ce transfert. Moi, c'est la première fois, par exemple, que j'entends un homme politique comme le président de la République. Si on fait exception évidemment de Nicolas Sarkozy, dont on sait qu'à l'époque où il était président, il soutenait le Paris Saint-Germain, mais il a toujours été un grand fan du PSG. Mais là, Emmanuel Macron, il s'est exprimé sur l'arrivée de Neymar. Il dit c'est incroyable pour notre Ligue 1. Il soutient le club de la capitale dans ce transfert du siècle. Faut bien comprendre, coach, justement, que si ça va quand même jusqu'au plus haut sommet de l'État, c'est vraiment quelque chose qui ravit tout le monde, qui ravit aussi le ministre du Budget. On l'a entendu ce matin chez nos confrères de France Inter. Voilà. Parce que ça va apporter de l'argent dans les caisses de l'État, parce que ça va faire beaucoup de bien pour l'image de la France, pour plein de choses.
Et n'oublions pas que, bon, tu parlais de Nicolas Sarkozy, c'est quand même lui qui est à l'origine de l'arrivée des Qataris pour reprendre le Paris Saint-Germain.
Allez, on va accueillir Thierry Grand-Turco, avocat spécialisé dans le droit du sport, parce qu'il faut quand même éclaircir un petit peu toute cette histoire de Liga qui refuse le paiement donc de la clause libératoire de Neymar. On va en parler avec lui. Bonjour, maître Grand-Turco.
Bonjour.
Dernier rebondissement en date dans ce feuilleton un petit peu dingue, la Liga qui refuse finalement le paiement de la clause libératoire par les représentants de Neymar. De quoi parle-t-on exactement?
Bah écoutez, on parle d'un transfert lorsqu'il est validé par une ligue. Il est en règle générale simplement un processus administratif de constatation que les documents sont bien remplis et que la somme est bien arrivée. Donc on parle de quelque chose de très simple et de normalement pas problématique du tout.
Ils ont le droit, la Liga, de faire ça, de refuser comme ça le paiement d'une clause libératoire?
Ils peuvent le faire que s'il y a un coup de tampon qui manque ou que si la somme ne vient pas de directement du PSG et pose question pour ce qui est de son identification. Mais en l'occurrence, le PSG ayant déjà recruté en Espagne, on peut être certain qu'ils savent exactement comment on fait venir un joueur du championnat espagnol dans le championnat français. Je pense que je prends plutôt ça, si vous voulez, pour un coup de menton intempestif de la Ligue envers les Parisiens.
Bon, en réalité, ça remet en rien en cause le transfert de Neymar, qu'on soit bien d'accord.
Oui, je pense que ça le retarde un petit peu. De toute façon, au final, c'est la FIFA qui est compétente pour les transferts internationaux. Donc, s'il advenait que la Liga bloque le transfert un petit peu trop longtemps, la FIFA serait sûrement appelée à se pencher sur le dossier et à le débloquer.
On peut imaginer un litige, je sais pas moi, qui dure des semaines, qui dure peut-être jusqu'à la fin du mois d'août et qui remette en cause le transfert de manière immédiate?
Non, c'est-à-dire que si on est vraiment sur des problèmes administratifs, et je crois fondamentalement qu'on est sur des problèmes administratifs, à ce moment-là, on parle vraiment de quelques heures ou de quelques jours. Si ça devait durer plus longtemps, c'est qu'il y aurait un problème plus fondamental qui vous aurait échappé, qui m'aurait échappé et qui aurait échappé au PSG.
Bon, ça veut dire concrètement, là, le seul risque, on va dire, pour le Paris Saint-Germain, finalement, c'est que Neymar ne puisse pas jouer samedi face à Amiens pour l'ouverture du championnat lors de la première journée au Parc des Princes, voire peut-être contre Guingamp la semaine d'après.
Oui, maximum. Si vous voulez, que les Parisiens solliciteront certainement la FIFA dès le début de la semaine prochaine si ça ne devait pas se débloquer.
Maître Thierry Grand-Turco, avocat spécialisé dans le sport et l'invité de l'Intégral Foot sur RMC. Pour revenir au transfert en lui-même, c'est 222 millions d'euros. Finalement, comment un transfert aussi hors norme est-il possible?
Écoutez, on se pose tous la question pour l'instant, mais en tout cas, ce qui me semble moins évident, c'est que les limites de ce que peut être la rentabilité d'un joueur dans un club sont repoussées d'année en année. Je vous rappelle que tout de suite après l'arrêt Bosman dans les années 95, on parlait déjà de risque de bulle spéculative. On en reparle toutes les années, tous les 5 ans, tous les 10 ans, et les sommes continuent pour autant à augmenter.
Ça veut dire par exemple qu'on peut imaginer tout à fait voir un jour la fameuse clause libératoire de Cristiano Ronaldo à 1 milliard d'euros être débloquée par un club qui voudrait s'adjuger Cristiano Ronaldo. Enfin, que ce soit pour Ronaldo ou pour un autre joueur qui serait plus jeune.
Oui, je pense, si vous voulez. Aujourd'hui, il faut le rappeler aux auditeurs et à tous ceux qui regardent encore le football d'aujourd'hui avec les lunettes des années 80. Aujourd'hui, un joueur, c'est un produit. Donc, les choses sont simples. Si vous achetez un joueur dont vous constatez qu'en réalité, il va créer dans votre entreprise plus de recettes qu'il ne crée de charges, autant repousser la limite et gagner des recettes. Donc on en est là aujourd'hui.
Alors ça va quand même contraindre dans un premier temps qu'on se mette bien d'accord. Le PSG a sérieusement dégraissé, que ça soit au niveau de d'indemnités de transfert que le PSG pourrait toucher en vendant des joueurs, comme des salaires finalement qu'ils auront plus à payer. On sait que le transfert c'est sur 5 ans, ça veut dire que le PSG va devoir dégraisser, vendre des joueurs tous les ans.
Quasiment. Bon, les 5 ans vont devenir 4 ans, comme vous le savez, hein, parce qu'il n'ira pas au bout de son contrat. Mais au-delà de ça, oui, vous avez raison, ils ont deux possibilités. Un, augmenter leurs recettes. Et Neymar va être un formidable levier pour augmenter les recettes du PSG. Deux, diminuer les charges. Et pour diminuer les charges, ils ne vont pas avoir 50 solutions. Il va falloir qu'ils vendent des joueurs.
Hein. Vous le disiez, un joueur est devenu un produit. Ça veut dire qu'au fond, c'est rentable en fait pour le Paris Saint-Germain. Là où il y a quelques années, peut-être que acheter un joueur à une telle somme ne l'aurait pas été. Là, le PSG finalement va réussir à dégager des revenus dans un second temps. C'est un investissement sur l'avenir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on recrute un joueur, on fait déjà des calculs complètement différents de ceux qu'on faisait il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on savait ce qu'un joueur coûtait. Et puis on essayait de faire en sorte de remplir le stade et d'avoir des résultats sportifs. Aujourd'hui, on est capable de calculer ce qu'il peut rapporter en dehors du terrain. Et donc, je suis assez confiant sur le fait que les dirigeants parisiens sont suffisamment intelligents pour avoir déjà calculé les produits que Neymar leur permettra d'accumuler.
Alors justement, comment on génère des revenus supplémentaires avec un tel joueur? Finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais encore faut-il exposer les choses?
Oui, si vous voulez, aujourd'hui, quand on recrute un joueur comme Neymar, on se pose d'abord la question de savoir combien on va le revendre. C'est-à-dire potentiellement, on l'a acheté 222 millions, on le revend dans 4 ans, quel peut être le potentiel prix de Neymar au moment de sa revente. A priori, il n'y a pas de raison de penser qu'il sera moins cher que les 222 millions en question, ouais. Si on regarde l'économie du marché du foot tel qu'il évolue. Puis après, ils vont faire, pour être très clair et très court, ils vont faire de Neymar un homme sandwich, c'est-à-dire qu'il va être vendu à tous les tons et à toutes les sauces. En France, en Europe et dans le reste du monde. Donc ça va être un formidable produit pour le PSG.
D'autant qu'on sait que Neymar justement est façonné depuis qu'il est jeune, depuis ses 18 ans et sa première sélection, il est façonné pour devenir une idole. 78 millions de followers sur le réseau social Instagram, c'est beaucoup plus, c'est plus de deux fois plus que le Paris Saint-Germain à lui seul. C'est une certitude pour le PSG que de toute manière son image sera vendue dans le monde entier.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, le PSG aujourd'hui, il est un peu plombé, si je puis dire, par la faible diffusion de la Ligue 1. Donc, il doit trouver d'autres vecteurs d'exposition que la simple télé ou le simple championnat français. Et les autres vecteurs que le PSG peut mettre en avant, ce sont des stars internationales. Et Neymar en est une. Et l'une des principales stars internationales du football actuel. Donc c'est un très très joli coup.
Merci beaucoup, Maître Grand Turco, avocat spécialisé dans le sport, d'avoir été dans l'Intégral Foot sur RMC.
Merci beaucoup.
Et bonne soirée.
Merci, au revoir.
Coach!
Oui!
Qu'est-ce que tu retiens de cette interview de Thierry Grand Turco que tu as écouté très attentivement?
Oui, mais rien de particulier de ce qu'on n'est pas au courant. Donc, il n'a fait que confirmer ce qu'on pense. Et ensuite,
il y a quand même quelque chose qui est important, moi, je trouve, dans ce qu'il a dit, c'est que aujourd'hui, on parle des 222 millions de Neymar. Enfin, quelque chose qu'on n'avait pas abordé. On parle des 222 millions que le PSG met pour s'offrir Neymar. Il a dit même dans 4-5 ans, il n'y a pas de raison de penser qu'il vaudra moins.
Oui, mais c'est pas non plus. Il a répété deux fois. Il sera transféré dans 4 ans. Mais il peut être transféré dans 3 ans aussi.
Oui, oui, oui. Non, il disait,
et après...
Transféré dans 6 ans si son contrat est prolongé entre-temps.
Voilà, aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur ce que coûte Neymar sur un contrat de 5 ans au Paris Saint-Germain. Eh bien, on réfléchira, si on est en train d'en reparler dans nos émissions, on réfléchira à ce que Neymar a rapporté en 2 ou 3 ans au Paris Saint-Germain et ce que Neymar... le montant du transfert de Neymar, si Neymar est transféré, c'est pas non plus une obligation, une certitude que le Paris Saint-Germain transfère Neymar dans 3 ou 4 ans. Il peut très bien le prolonger et Neymar peut très bien faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain.
Allez, on accueille Frédéric, supporter du Barça qui a fait le 32-16. Salut Frédéric.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Salut Frédéric.
Tu voulais revenir, je crois, Frédéric, toi, sur l'info du jour, sur cette Liga espagnole mauvaise joueuse, mauvaise perdante, comme dit coach, qui empêche pour l'instant le paiement de la clause libératoire de Neymar.
Voilà. Alors nous les supporters du Barça, parce que je suis assez près les forums espagnols et catalans, Nous, on voit un camouflet bien autre que ce que vous pensez. Derrière le camouflet de Javier Tebas, ce président de la LFP, se dit vouloir savoir exactement l'origine des fonds. Nous, on voit bien plus loin que ça. Javier Tebas, il faut le savoir, c'est un supporter déclaré du Real Madrid. Nous, ce qu'on voit derrière tout ça, c'est que Javier Tebas veut freiner au maximum la perception des 222 millions par le Barça.
Ouais, d'accord.
Tout simplement pour les empêcher au maximum et les retarder au maximum dans les signatures de joueurs pour remplacer Neymar qui viendront. C'est tout ce qu'on voit, nous, derrière tout ça.
D'accord. Donc, en fait.
On voit pas un quelconque camouflé de la LFP qui en voudrait au PSG.
Ouais. D'accord, ok. Donc ça serait la mauvaise foi encore plus caractérisée, mais on sait, Adrien, Javier Tebas, c'est connu, il a un passé au-delà du fait qu'il soit pro Real Madrid, il a un passé assez sulfureux, le président de la Liga. Mais alors là, quand même, là c'est la théorie du complot, coach.
Oui, bon, enfin, on peut tout penser, on peut tout imaginer. Ce qui reprendra toujours le dessus, c'est cette arrivée qui est tout simplement une bombe, la plus grosse bombe de tous les temps au niveau footballistique. Donc nous sommes dans une autre époque, et dans cette autre époque, eh ben il arrive à se compenser qui ne pouvait pas arriver. C'est une bombe aussi retentissante et avec des sommes aussi énormes que ça.
Frédéric, toi, ton avis de oui. supporter du Barça, au-delà de ta théorie dans tes bases pro-Real et anti-Barça qui chercherait à retarder au maximum le chèque que toucherait le Barça dans cette transaction de Neymar, comment tu vois, toi, l'arrivée de Neymar en France?
Ah, l'arrivée de Neymar en France, ça va, comme on l'a dit depuis ces derniers jours, remplir les stades, m'envoyer beaucoup d'euphorie à tous les supporters, que ce soit les supporters du PSG ou les supporters des équipes adverses. Néanmoins, je tire une petite sonnette d'alarme. C'est que, pour avoir suivi, pour être un supporter très fervent du Barça, Neymar, quand il a dû s'imposer en tant que patron du jeu du Barça, quand les quelques matchs, il manquait Messi ou Suarez, n'a pas vraiment montré ce qu'on attendait de lui sur le terrain. Mmh. Donc je tire juste une petite sonnette d'alarme, on attend 6 mois et on voit ce que ça donne Neymar. Parce qu'un joueur ne fait pas une équipe, je pense que coach Courbis le sait. Et la vérité, elle se verra sur le terrain, peut-être pas en Ligue 1, mais elle se verra en Ligue des Champions.
Oui, mais c'est justement ce qui est passionnant, c'est que ça a dû être le calcul de Neymar aussi. C'est que déjà, c'est un Neymar de 25 ans qui est récupéré par le Paris Saint-Germain. Un Neymar aguerri par un passage dans un club comme le Barça, qui a côtoyé Messi, l'Argentin et le Brésilien, c'est pas évident au départ. Et une des réussites du Barça, c'est pas seulement d'avoir récupéré Neymar, c'est d'avoir récupéré 3 joueurs énormes qui ont été capables de s'entendre comme 3 copains. Donc là, maintenant, Neymar veut passer à autre chose dans sa carrière. Et c'est vrai que dans les semaines et les mois à venir, alors toi tu donnes 6 mois, on peut en donner un peu moins, on peut en donner un peu plus. On verra le Neymar du Paris Saint-Germain qui sera peut-être totalement différent que celui du Barça.
Il a prouvé quand même qu'il savait prendre les clés du camion, notamment avec la sélection brésilienne. Alors pas tout le temps, mais quand même, on l'avait vu plutôt à son avantage sur certains matchs, et notamment il y a 2 ans lors de la Coupe du Monde. Alors,
c'est sûr qu'au niveau de sa personnalité, on voit quand même quelqu'un de costaud. On le voit un petit peu fragile dans certaines réactions où l'adversaire de Neymar, sous les conseils d'un coach, peut très bien faire tout pour lui faire péter les boulons. Mmh. Et souvent, je dirais pas souvent, mais parfois, il les pète. Donc, on verra au Paris Saint-Germain s'il arrive à garder son calme. Aujourd'hui, c'est pas évident pour lui de vivre cette affaire-là, sur un plan psychologique, sur un plan nerveux, quand on parle de la possibilité qu'il joue contre Amiens, mais que le Barça puisse retarder le paiement de la clause et tout, mais que Neymar puisse tranquillement intégrer le Paris Saint-Germain, trouver où il va habiter, s'entraîner, et si Neymar ne joue que 20 ou 30 minutes dans les matchs à venir, ou même pas du tout tout au long du mois d'août, ça sera une certaine prudence, parce que au niveau de son cerveau, dans ce qu'il vit aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est de tout repos. Hein.
C'est sûr. Juste, Frédéric, un dernier petit mot au 32-16. Neymar, meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 pour toi?
Ah ben, sans conteste.
Bon.
Sans conteste, il va marquer les esprits.
Allez, merci Frédéric d'avoir fait le 32-16. Bonne journée à toi. Tiens, coach, on va revenir dans un instant. On va parler de Nice un petit peu, parce qu'après tout, honneur à ceux qui font aussi l'actu foot sur le terrain et qui nous ont régalé hier, 2 buts partout à l'Ajax Amsterdam et une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Juste avant ça, je vous rappelle que vous pouvez garder, je vous fais gagner des places pour le match olympique de Marseille-Dijon. C'est à 21h au Stade Vélodrome dimanche, match de la première journée de Ligue 1. Vous envoyez OM par SMS au 7-32-16. Les plus rapides d'entre vous gagneront donc des places. 16h24 dans l'intégral foot sur RMC avec coach Courbis. On revient dans un tout petit instant. À tout de suite.
RMC intégral foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
16h26, vous êtes bien dans l'intégral foot sur RMC avec coach Courbis, l'intégral foot jusqu'à 18h. Coach, on est obligé de revenir sur la qualification et le match nul des Niçois hier après donc ce nul 2 buts partout à l'Amsterdam Arena. Exploit titre Nice matin. C'est vrai qu'on avait dit, on avait volontiers, enfin moi je me souviens avoir volontiers parié sur le 2-2 ici même dans l'émission hier. Franchement, j'avais quand même, c'était plutôt la méthode Coué, j'y croyais quand même que moyennement. Et franchement, les Niçois, ils nous ont fait un match de malade.
Bah écoute, dans tous les cas de figure, rappelle-toi ce qu'on disait, c'est que c'était mission très difficile, pas impossible, mais très difficile. Et se qualifier après un partout à domicile. Ah ben sincèrement, c'était pas évident. On l'espérait, mais on n'y croyait pas trop.
Bah justement, on va se remémorer les bons moments de la soirée. C'était dans l'intégrale foot hier.
Replay. Blair qui lance en profondeur pour Sarfi, Lesmelou, la frappe de Lesmelou, arrêtez, ça revient sur Arnaud Souk, le but de l'OGC Nice ici à l'Arena. Arnaud Souk, 2 minutes 10. Vandenbeek qui lance la surface, Vandenbeek, la frappe, le but, l'égalisation de l'Ajax Amsterdam.
Étouffés vraiment les Niçois dans ce début de deuxième période. Le centre des épaules décide à sauter en colère, ça revient à David Sanchez. But de l'Ajax, on le sentait venir et c'est Davidson Sanchez, le défenseur central là qui a jailli sur le centre de Vergeber sur la gauche. Pléa alors que la surface, Pléa qui lance série qui met une talonnade pour Vincent Marcel. Le but de Vincent Marcel à 12 minutes de la fin du match, l'égalisation de l'OGC Nice.
RMC intégral cours.
As-tu reconnu, coach, cette douce voix?
Oui, j'étais en train de penser justement au dernier but, c'est-à-dire le but de la victoire, mais de la qualification. Il y a cette talonnade de Seri, c'est quand même un coup de génie.
On va en parler, Jean-Michel Seri. On accueille Georges Quirino qui s'est égosillé hier à l'Amsterdam Arena, mais qui est d'ores et déjà de retour à Paris. Salut Georges.
Bonjour à tous. J'entendais dire.
Salut Georges.
Vous étiez obligé de parler ce match. Non, j'espère que ça vous fait plaisir même de parler ce match.
Quand je dis obligé, comment passer à côté? Alors toi, en plus, le Niçois. dis-moi, Georges. Joie extraordinaire, on l'a vu sur la pelouse des Niçois à l'issue de cette rencontre, de ce match nul, 2 buts partout. On rappelle que il fallait marquer précisément 2 buts à minima pour se qualifier directement pour les Niçois et ils l'ont fait, ils ont su le faire. Ça n'a pas toujours été facile, mais du coup la joie est extraordinaire.
Exactement, c'est franchement une ambiance absolument incroyable dans un stade, l'Arena d'Amsterdam, qui est déjà une enceinte majestueuse avec les 50 000 spectateurs néerlandais qui étaient contre l'OGC Nice. Il y avait 2000 supporters niçois qui étaient là et qu'on a en fait entendu principalement sur la fin de match. Ils ont un peu éteint l'aréna. On a vu tous les joueurs niçois s'embrasser, s'enlacer à l'issue de la rencontre. Il y avait du mal à y croire, notamment Johan Cardinal aussi. Bah écoutez, on va écouter Arnaud Souquet à l'issue de la rencontre qui a marqué hier. Arnaud Souquet, le défenseur, nous parlait de son sentiment au coup de sifflet final à l'aréna.
C'est super, on se dit on sort l'Ajax, c'est un finaliste de la Ligue Europa, et on n'a pas grand chose à dire, hein. C'est très bien, on profite, vraiment c'est ça, c'est du profit, et d'aller profiter avec les supporters, parce que voilà, faut aussi les féliciter, hein. Ils sont venus à plus de 2000, c'est génial de pouvoir voir le foot comme ça dans un stade aussi plein, avec nos supporters et tout, c'est super.
Bon Georges, maintenant pour les Niçois, au-delà de l'émotion, c'est quoi le discours de notamment de l'entraîneur et du staff?
En tout cas sur ce match, Lucien Favre qui disait très clairement que peut-être la force de l'OGC Nice, en tous les cas la chance de l'OGC Nice sur ce match, je sais pas ce que tu en penses coach, mais c'est peut-être que l'Ajax n'a pas fermé finalement le jeu alors qu'il menait 2-1. Ils ont continué à jouer pour peut-être essayer essayé de marquer un troisième but et ça a permis aux Niçois d'avoir des opportunités. Et cette opportunité, eh bien, quand on a un joueur comme Jean-Michel Seri, qui a un espèce de petit coup de génie comme ça, on voit les grands joueurs dans les grands matchs, eh ben, ça permet de débloquer la situation sur la fin de match et permettre aux Niçois de se qualifier. Ouais, mais c'est quand même pas joué à grand chose. Hein,
tu sais, des fois, ce qui se passe sur un terrain de football, il y a des fois, quand tu peux arriver à faire ce que tu veux, mais il y a des fois, tu fais ce que tu peux aussi. C'est-à-dire que là, il y a quand même eu un début de match qui n'était pas prévu du côté de l'Ajax, et qui a été un très bon début de match de Nice. La construction du but de Nice à la deuxième minute, je la trouve tout simplement magnifique avec Essérik au début de cette construction. Là, ça met quand même une droite dans au menton de l'Ajax, parce que Nice a réussi à marquer ce but, et là l'Ajax se retrouve dans une situation où pour se qualifier et pour éviter les prolongations, il faut marquer deux buts. Un seul but de l'Ajax, ben ça suffit pas. Et quand l'Ajax arrive à marquer ce deuxième but, il pense logiquement que le troisième les mettra
à l'abri.
KO, mais il mettra Nice KO, parce que quand tu es 2-1, tu es toujours avec la crainte de prendre ce but qui serait le but de l'élimination, ce qui a été le cas. Donc je pense pas que l'Ajax ait pu faire une erreur d'essayer de marquer le troisième.
Coach, il y a quelque chose qui est formidable hier.
D'ailleurs, attention, ça s'est joué à rien, 4 ou 5 situations.
Ça s'est joué à rien, mais justement, coach, là où Nice a été très fort, d'abord, il y a ce second souffle, et puis il y a surtout une optimisation quasi parfaite des temps forts, quoi. C'est ce qu'on peut voir hier, quand même.
Ah ben écoute, dans la situation actuelle de Nice, qui est en reconstruction, même s'il reste l'ossature de la saison dernière, c'est difficile de faire un meilleur match que ce qu'a pu faire Nice hier.
Il y avait la joie sur la pelouse, il y avait aussi la joie après quand t'as pu rencontrer toi les joueurs, Georges, notamment le gardien qui avait été un peu héros malheureux au match aller et qui là pour le coup a sorti quelques arrêts qui ont bien sauvé les Niçois.
Il a sauvé à 2-1 pour l'Ajax, je me rappelle d'une demi-volée de Van de Beek à l'entrée de la surface qui va chercher vraiment à son poteau. Johan Cardinal, il a fait le travail quand même hier, même si il encaisse deux buts sur ce match-là, mais en tout cas c'est vrai qu'on l'a retrouvé comme un gosse vraiment en zone mixte, en zone interne à l'issue de la rencontre. Alors pourquoi? Parce que vous savez que maintenant Nice est en barrage de la Ligue des Champions, et en fait quand on est en barrage de la Ligue des Champions, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là on rentre dans un monde où on a désormais toute la présentation de la Ligue des Champions, et ça Johan Cardinal, écoutez-le, il le sait.
Musique, ballon, le maillot avec les cuissons, c'est pas du tout un détail, c'est on va dire un rêve, on va dire, même si c'est pas un match officiel de Ligue des Champions, c'est un match de barrage, mais moi je me languis, je suis impatient de découvrir cette ambiance, d'entendre cette musique surtout que j'écoute depuis que j'ai 6 ou 7 ans, j'attends vraiment ça avec impatience.
Tu sens la coach, le côté enfantin aussi qu'il y a derrière c'est exceptionnel, quelle fraîcheur.
Tu sens le passionné que peut être Cardinal. Mais bon, il n'est pas le seul. Donc cette musique, c'est vrai que au premier match, là, Nice, elle nous a manqué quand même.
Tiens, on a parlé de Jean-Michel Seri tout à l'heure, qui parfois il faut le reconnaître aussi. Hein, il a pas livré un match parfait, mais il a quand même été très très remuant dans l'entrejeu et surtout une fois il est passeur décisif, c'est et ça c'est quand même plus important. Il y a aussi des parfois sur coup de pied arrêté, peut-être des situations où il a manqué un petit peu de précision, mais ça n'est que du positif pour l'avenir. Il y a quand même un homme qu'on attendait au tournant, c'est Alassane Pléa, et pour le coup il a quand même fait une belle rencontre, coach.
C'est pour moi même si on est dans un sport collectif et qu'on félicitera évidemment tout le monde, si on sort un joueur, moi je sors lui en premier, dans le sens que déjà c'était pas évident pour lui de faire la totalité du match. Il y a la blessure de Balotelli qui a un petit peu changé les données. Point d'interrogation, une question que je me pose, est-ce que Balotelli à la place de Pléa aurait mieux fait que Pléa? J'en sais rien, mais toujours est-il, on ne pensait pas que Pléa soit capable de faire 92 ou 93 minutes, et il les a fait un petit peu par obligation de l'effectif qu'il y a en ce moment. Et quand je l'ai vu sur ces 2-3 actions dans les 20 dernières minutes où il peut justement faire le break définitif, ben là on a vraiment vu le nombre de kilomètres qu'il avait parcouru et aussi le manque de compétition qu'il peut avoir. Malgré ce, mais il se débrouille de s'accrocher jusqu'à la 93e minute et d'aider ses coéquipiers à se qualifier. Donc c'est, moi j'avais même peur qu'il se blesse musculairement à la fin en faisant ces efforts là et donc heureusement ça a été épargné à Nice. Ça c'est aussi une des bonnes nouvelles de la soirée.
Il n'avait pas joué un match en complet depuis ouais. depuis février et c'est T'imagines. Vrai que tu le dis coach, à la fin du match franchement c'était hallucinant. C'était un de ceux qui courait le plus pour essayer de gagner du temps, qui a eu une action tu l'as dit de 3-2 et puis juste il était décisif, il faut ouais. vraiment le dire parce que sur le premier but, but. Non mais même sur le but de sur le premier but, c'est lui qui lance Srarfi, Lesmelou pardon et sur le but de Vincent Marcel, c'est lui qui fixe la défense pour donner ensuite le ballon à Seri qui va faire la tête ouais. pour Vincent Marcel. Donc il a été vraiment très précieux hier à la Sainte-Pléa dans ce match-là.
Tiens, on va accueillir coach Georges, un supporter heureux, Romain, supporter de l'OGC Nice qui a fait le 32-16. Salut Romain.
Salut à tous.
Salut Romain.
Quel incroyable scénario hier pour les Niçois quand même.
Hein. Ah, mais le match était fou en plus. Le scénario était dingue. Heureusement qu'on marque ce but aussitôt dans la partie. Qui les a fait un petit peu douter, mais on a bien vu qu'on est tombé, qu'on est quand même tombé sur une, c'est quand même une belle équipe, là, j'ai l'impression. Il y a pas à dire. Il y a quand même des super joueurs.
Exceptionnels, hein, d'un point de vue offensif.
Individuellement, ils sont forts. Mais quand ils jouent ensemble, comme ils ont joué hier, de la 22e à la 80, allez, à la 75e, quand ils jouent ensemble, c'est fou, quoi. Cette équipe, ça va à 2000 à l'heure, c'est intelligent. Heureusement, il y avait quelques joueurs qui étaient un petit peu en dessous de leur côté, comme l'attaquant gauche, là.
J'ai plus
son nom.
Younes.
Voilà. Younes qui, non, pas Younes, bon, bref. Qui a fait un match aller, match retour aussi, qui n'a pas été très là, alors que d'habitude il est excellent. Mais sinon, ce que Younes a été très bon hier. Mais non, le scénario était fou et puis on l'a fait vraiment à l'envie celui-là, hein, de match. De deux, c'est vraiment à l'envie. Hein. On n'a pas dominé comme au match aller, hein, on n'a pas non plus dominé. À l'avantage au point était plus du côté de l'Ajax, mais allez, l'envie, on va dire que c'était pour nous.
Oui, il y a eu aussi certaines décisions délicates et là, souvent les arbitres sont critiqués. Moi, je félicite celui d'hier qui est pas tombé dans le panneau du penalty que cherchait à chaque action l'Ajax. Donc ça aussi, Nice a réussi à le faire. C'était pas évident non plus. Donc si tu veux le match de Nice, évidemment, on va pas dire que c'est un match parfait, mais je dirais c'est un match presque parfait.
Dis coach, on remercie oui. Romain d'avoir fait le 32-16. Coach Georges, je voudrais qu'on parle aussi des adversaires potentiels ouais. maintenant pour Nice. Déjà à l'Ajax c'était pas facile, mais là Georges, les barrages ça va être encore pire. Hein.
Alors, c'est le tirage au sort, c'est vendredi. Le tirage au sort, c'est vendredi. On rappelle qu'on jouera les barrages le 15 et 16 août pour le match aller, le 22 et 23 août pour le match retour. Bon bah là les adversaires, Naples, Séville, Liverpool, Sporting Portugal et CSKA Moscou.
Wow. Donc je vois ton sourire.
C'est quand même pas mal, évidemment les adversaires. On va préférer peut-être le CSKA Moscou, peut-être le tirage le plus simple.
Si tu veux, si je regarde la valeur de ces équipes-là, évidemment c'est une grosse équipe. Donc j'aimerais pas tomber contre Naples ou Liverpool, mais surtout que le tirage au sort nous donne un deuxième match à Nice. Parce qu'on peut me raconter ce qu'on veut, et même si hier Nice a réussi à se qualifier avec le deuxième match à l'extérieur, ben, l'exploit est encore plus grand. Donc dans un match de barrage, je dis pas qu'en recevant à Nice le deuxième match, Nice se qualifiera, mais pour moi les chances sont quand même augmentées.
En tous les cas, il y a un joueur qui a déjà une idée bien précise de l'adversaire qu'il a envie d'affronter. Ben c'est Johan Cardinal qui nous a parlé que d'Anfield.
Moi, personnellement, après, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, j'aimerais découvrir Anfield. Déjà, moi, je voulais l'Ajax. J'ai saoulé tout le monde pendant une semaine. L'Ajax, on les a eus. Maintenant, moi, personnellement, j'espère Liverpool. Je veux entendre le Liverpool Cologne. Je veux le COP derrière mon dos. Je veux voir deux ou trois mini-sois se déplacer en Angleterre. Et on veut aller gagner à Anfield.
Il fait super bien, le mec qui est content quand même.
Non, mais on sent le passionné, tu disais, coach.
Ouais, mais bon, attends, Anfield, ok. Mais moi, je préférerais que Liverpool ne rencontre pas Nice, que les deux se qualifient et qu'ils se retrouvent dans la même poule.
Rencontrer
Liverpool. Ouais, pourquoi pas.
Ouais. C'est pas l'adversaire le réputé le plus difficile hein, dans les cinq. Enfin, si tu regardes le classement UEFA, vaut mieux aller rencontrer peut-être. J'en sais rien, mais si tu regardes le palmarès récent, il vaut mieux aller rencontrer Liverpool que le FC Séville, par exemple, qui a une expérience des coupes d'Europe illimitée depuis 2006, quoi.
Ouais, bah écoute, si Nice rencontre Séville deuxième match à Nice, eh ben je dis que tout est possible.
Dis, coach, je voudrais qu'on parle également de ce qu'engendre cette qualification des Niçois pour les
barrages. Au niveau du mercato, je crois que Georges, on en a parlé hier. Il en a été question, notamment avec Lucien Favre et aussi avec le président River.
Alors déjà parce que c'était peut-être le dernier match de certains joueurs. Vous savez qu'on parle d'Albert à l'Inter Milan et de Valentin Essérique peut-être à la Fiorentina. Lucien Favre a juste dit à l'issue de la rencontre qu'il ne s'agissait peut-être pas du dernier match de ces joueurs-là. Alors on va voir dans les jours prochains.
Ben oui, il y a un match de championnat.
Eh oui, contre Saint-Etienne samedi. Donc oui, peut-être qu'ils partiront au moins après le match de Saint-Etienne. Donc voilà pour l'avenir tout proche. Et puis après il y a les noms qui circulent, les noms de Wesley Sneijder, notamment de Samir Nasri également. Ben on a posé la question à Jean-Pierre River, le président du gym, à l'issue de la rencontre.
Alors Nasri, Nasri c'est pas du tout le sujet. Sneijder, on a eu des contacts, ça c'est vrai, mais pas Nasri.
C'est des contacts très avancés.
C'est un joueur qu'on regarde. Nasri, on n'a pas du tout regardé. Ben, c'est la différence.
Voilà. Sneijder, on le regarde.
Ouais. Nasri, Nasri, coach, t'en penserais quoi toi de l'avenue de Nasri à Nice?
Bah, je dirais pourquoi pas. Donc, mais tu as la réponse. Donc c'est plus important la réponse du président que ce que j'en pense.
C'est plutôt Sneijder en tous les cas.
Ouais, ben absolument.
Bon. Merci.
C'est ce qu'il nous a dit.
Merci Georges Quirino pour toutes ces informations, pour ce résumé, cette analyse bien complète.
Je vais prendre du miel pour retrouver ma voix.
Tu vois, moi aussi. C'est de te voir, tu vois, ça me contamine. Coach, ça va, t'as pas de chat dans la gorge, toi?
Ça va, pour le moment, ça va.
Allez, 16h41 dans l'intégral foot sur RMC. Dans un instant, toutes les infos mercato.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
16h44 dans l'Intégral Foot sur RMC. Bah tiens, on va accueillir Martin Bourdin dans un instant pour le Mercato Show.
RMC, le Mercato Show.
Salut Martin.
Salut Arnaud, salut coach, salut à tous.
Salut, salut.
Dis-moi Martin, le dossier Neymar, on passe d'être bouclé, place peut-être à un autre feuilleton. On a commencé à en parler hier soir un petit peu tard. Kylian Mbappé pourrait partir de Monaco.
Ouais, parce que le jeune espoir monégasque a été très touché par la défaite de Monaco lors du trophée des champions. C'était contre le Paris Saint-Germain. Et ce soir-là, selon nos informations, il a confié ses incertitudes concernant son avenir à certains de ses adversaires du soir, donc c'est-à-dire des joueurs du Paris Saint-Germain, aussi à certains de ses coéquipiers. Aujourd'hui, le quotidien L'Équipe explique que Kylian Mbappé souhaite clairement partir du Rocher. Alors pour le moment, on ne sait pas vraiment s'il a fait part ou non de ses envies de départ aux dirigeants. En tout cas, il y avait eu un rendez-vous il y a quelques jours entre le vice-président de la SM Monaco, Vadim Vassiliev, et le père de Kylian Mbappé. Pas de proposition de prolongation de contrat n'a été transmise au clan Mbappé. Kylian Mbappé qui a également 4 prétendants. Le Real Madrid, Paris, on en avait parlé il y a quelques jours sur RMC. Le Barça aussi, qui avec la manne financière récupérée dans le transfert de Neymar, souhaiterait récupérer un joueur, pourquoi pas Mbappé. Le Barça qui a rencontré l'entourage du jeune attaquant, mais également Manchester City s'intéresse au tout jeune international français.
Bon, on pensait qu'il allait, dans ce qu'on disait depuis quand même quelques semaines, on pensait qu'il resterait au moins une saison de plus. Et c'est vrai que cette offre du Real Madrid, là, il y a quelques semaines, est quand même venue, il y a quelques jours, pardon, les 180 millions d'euros, est quand même venu tout changer, coach. Moi, je suis très étonné quand même quand il dit qu'il a été très touché par la défaite face au Paris Saint-Germain au Trophée des Champions et que c'est ça qui l'inciterait à partir.
Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Donc, je trouve un Mbappé changé depuis pas mal de temps, que ce soit dans son comportement, que ce soit même sur le terrain, dans son jeu, dans certaines réactions, dans certaines décision footballistique, dans certains propos. Donc je pense, et Dieu sait qu'on peut l'excuser si on est d'accord avec moi, c'est pas évident de vivre ce qu'il vit depuis plusieurs mois. C'est pas que ça va vite, ça va à 500 à l'heure, tout. Que ce soit ses prestations, après l'équipe de France, on l'envoie en conférence de presse en équipe de France. Bon, ok, c'est parce qu'il est nouveau, etc. Donc, il a tout assumé, les interviews, les reportages. Donc, c'est pas évident du tout pour lui. Et chose qui a été un petit peu surprenant, voire même, alors je dirais pas décevant, mais un peu quand même, c'est son changement en si peu de temps. Il nous a expliqué avec de belles phrases, que j'ai déjà dit, Dieu sait qu'il s'exprime bien, que bon, il ne se voyait pas partir. Il a même expliqué que pour partir au Real ou dans un club comme le Real, il faut être au sommet de son art, et que pour le moment il n'est pas au sommet de son art, ce qui voudrait dire que bon, après une année, alors qu'il n'a fait que 4 mois de très haut niveau, donc après une bonne année là, on verrait les choses différemment. Et d'un coup, il y a dû y avoir contact, il y a dû y avoir certaines paroles de certaines personnes, comme Zizou peut-être. Et là, je le trouve changé, ou nous expliquer deux mois après que ben, pourquoi ne pas aller dans un grand club quand on lui dit qu'il jouerait peut-être moins. Pourquoi je jouerais moins. Donc ce n'est plus le même Mbappé. Et je dis la même chose que pour Neymar il y a trois semaines, si vous vous rappelez, sans se déguiser en détective ou en Sherlock Holmes, à partir du moment où Neymar ne donnait pas à ses coéquipiers et à ses supporters une conférence de presse pour préciser qu'il voulait rester au Barça, c'est parce qu'il avait l'idée de partir. Et à partir du moment où Mbappé ne se positionne pas depuis plusieurs semaines...
Bah, il s'est positionné, mais sur les réseaux sociaux, coach. D'ailleurs, Martin, tu disais...
Ah, quoi
bah, tu sais, il met souvent son maillot de Monaco. Ouais, il l'a encore fait aujourd'hui
en souhaitant un bon anniversaire à son fils dans le maillot de Monaco. Il y a une photo, Kylian Mbappé porte le maillot de la Monaco encore.
Il s'affiche souvent avec le maillot de Monaco quand même sur les réseaux sociaux.
Ouais, il va pas s'afficher avec nouveau maillot.
De manière, j'allais dire, ostensible.
Oui. Enfin, moi, aujourd'hui, je te fais un pronostic. C'est tout simplement ce que je disais il y a 15 jours. Mmh. Et avant même le trophée des champions, qui pour moi n'a rien à voir. À partir du moment où Mbappé, même si tu me dis qu'il met quelques photos avec le maillot de Monaco, ok. Mbappé qui ne se positionne pas en disant ne m'emmerdez plus et ne m'emmerdez pas pour cette intersaison avec un nouveau club. Quelles que soient les offres, j'ai décidé avec mes poches de rester à Monaco et de faire une année complète à Monaco, à condition évidemment que je tombe d'accord avec Monaco pour me sécuriser d'un bon contrat, parce que les blessures n'arrivent pas qu'aux autres, et d'avoir l'accord de Monaco de me transférer dans un an. À partir du moment où il ne l'a jamais prise cette décision, ben pour moi, dans sa tête, c'est pas du 50-50, donc je sais pas si c'est du 90-10, mais si c'est du 51-49, c'est plutôt 51-49 pour partir que pour rester à Monaco.
Tiens, on va accueillir Jérôme qui a fait le 32-16, supporter de l'AS Monaco. Salut Jérôme.
Allez, bonjour coach, bonjour Arnaud.
Salut.
Je te laisse la parole sur Mbappé, vas-y.
Je rejoins un peu ce que dit coach Courbis. Clairement, il a changé de discours. Après, moi, il me fait clairement penser au cas Martial, et c'est toujours à nouveau à Monaco, et c'est ce qui me contrarie un peu, c'est qu'on est incapable aussi au niveau de Monaco de vendre suffisamment de rêves pour garder nos petites pépites. La preuve, c'est que Martial, finalement, il est parti pour pas grand-chose. Et il aurait peut-être dû rester une saison de plus à Monaco. Et forcément, on peut pas blâmer un gamin à qui on va proposer 180 ou 200 millions d'euros pour rejoindre un club comme le Barça ou le Real de prendre la grosse tête ou de s'enflammer. C'est juste humain. Même nous, aujourd'hui, si on nous proposait ça, enfin, ça nous arrivera jamais, malheureusement, mais forcément, ça nous ferait tourner la tête. Donc c'est légitime. Moi, ce qui me contrarie le plus, c'est l'état d'esprit dans lequel Monaco gère ses transferts, ses jeunes, ses joueurs, et d'année en année, donc voilà, on a gagné le championnat, tant mieux, mais je trouve qu'on a une gestion de conservation de nos joueurs qui est déplorable.
Bah ça, c'est l'éternel débat. Merci Jérôme d'avoir fait le 32-16. Effectivement, coach, c'est l'éternel débat autour de Monaco. Mais quand on voit, par exemple, tiens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'AS Monaco qui est sur un certain Dolberg, dont on a vu tout le talent hier dans le match de Nice face à l'Ajax Amsterdam, l'attaquant néerlandais, enfin danois en l'occurrence, c'est comme ça. Ils recrutent des jeunes, l'AS Monaco, pour les faire évoluer.
Oui, mais donc il y aura tout simplement... une équipe en reconstruction, un effectif avec des joueurs avec des marges de progression énormes, mais par contre remettre en place une équipe aussi bien huilée avec des joueurs à leur poste complémentaires entre eux, Jardim lui aussi qui après avoir été un petit peu prudent a mis pratiquement à tous les matchs un quatuor offensif plus deux milieux relayeurs récupérateurs qui faisaient le relais et le bon équilibre avec quatre défenseurs, trois défenseurs achetés avec beaucoup de précision et beaucoup de flair à l'intersaison pour 50 millions d'euros. On n'a pas assez insisté, ça c'était très rare aussi, Sidibé d'un côté, Mendy de l'autre et Glick dans l'axe, et Jefferson qui lui était arrivé six mois avant au Mercato. Donc cette équipe-là, même si, tu vois, on le saura jamais, mais même si tu gardais tous les joueurs de cette équipe-là, après cette saison, extraordinaire, qui du début jusqu'à la fin, qui a démarré très très tôt avec le tour préliminaire, le match de barrage, le parcours en Champions League que je rajoute systématiquement et sincèrement, je le rajouterai toujours. Je regrette de ne pas avoir vu ces deux matchs contre la Juve avec Sidibé d'un côté et Mendy de l'autre. Sidibé, l'appendicite, et Mendy qui avait des fatigues musculaires logiques avec tous les allers-retours qu'il peut faire. Donc, tu garderais tous les joueurs. Eh ben, tu serais pas, tu serais pas sûr de faire la même saison. Hein.
Tiens, juste, on nous dit sur l'hashtag RMC Live, on s'exclame sur le fait que Mbappé a déjà un enfant. Oui. Martin, c'est son petit frère.
Oui, hein, c'est pas son fils. Coach l'a dit, c'est tellement bien, j'ai tendance à oublier qu'il n'a que 18 ans.
Dis-moi, il va finir par les avoir, ces 19 quand même. C'est quoi sa date de naissance?
C'est 18, 19, il est né en 98, puisque je crois qu'il était pas né au moment de la Coupe du Monde, donc il va les avoir là dans quelques jours ou dans quelques semaines.
Parce que j'ai l'impression qu'il a toujours 18 ans.
Décembre 98, voilà, il aura 19 ans, donc en décembre 2017. Allez, coach, on continue avec ce mercato show. Carlos Bacca qui s'éloigne encore un petit peu plus de l'OM, Martin.
Ouais, le Colombien préférerait retourner jouer au FC Séville, selon un journal espagnol, Estadio Deportivo. Carlos Bacca, longtemps pisté par l'OM qui cherche toujours un deuxième attaquant pour jouer aux côtés de Valère Germain. Carlos Bacca donc peut-être de retour au FC Séville. Il a déjà joué deux saisons là-bas entre 2013 et 2015. Il avait marqué 49 buts en 108 matchs à Séville.
Coach.
Tu veux que je réponde à quoi?
Je sais pas, finalement c'est dommage quand même pour l'Olympique de Marseille.
C'est dommage, ça dépend qui viendra.
Pour les supporters à minimum.
À sa place.
Oui, si c'est Giroud, c'est
pour
sûr.
Le moment,
oui.
On a encore tout le mois d'août, Bacca, il vient pas, il viendra un autre.
Très bien. Quand acte la perte d'une de ses pépites, Martin?
Ouais, c'est Patrice Garande qui l'a dit aujourd'hui en conférence de presse avant la reprise de la Ligue 1. Yann Karamo va certainement partir. Voilà ce qu'a dit Patrice Garande. Yann Karamo, ce joueur de 19 ans, 35 matchs la saison dernière, 5 buts, l'une des grandes révélations de la Ligue 1 la saison dernière. Il a été courtisé notamment par Saint-Etienne et plus récemment, peut-être plus pressamment aussi, par l'Inter Milan.
Amiens.
Il y a quand même des coïncidences. Ouais. Donc, tu as Lemar qui est passé par Caen. Par Caen, ouais. Kanté, et maintenant celui-là, là, ça fait quand même des joueurs de très très haut niveau qui sont vendus très cher. Malheureusement pour Caen ne les vend pas très cher.
Amiens, on termine avec Amiens, Martin, qui veut des renforts devant.
Ouais, parce que les Amiénois ont perdu leur meilleur buteur de la saison passée, Aboubakar Camara, qui est parti pour la deuxième division anglaise en championship. Et aujourd'hui, Christophe Pélissier, l'entraîneur amiénois, se dit en manque de solutions et attend expressément des renforts offensifs. Deux cibles sont dans le viseur des Amiénois. Rachid Alioui, le Nîmois, auteur de 13 buts la saison dernière en Ligue 2, et Andrés Eliseo Chavez de Boca Juniors.
Et merci pour toutes ces infos mercato, Martin. Tout de suite, on va parier.
Les paris RMC.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Et on accueille Christophe Payet. Salut Christophe.
Salut Arnaud, salut coach.
Salut Christophe.
Salut à tous.
On va évidemment parier sur les deux rencontres du soir en Europa League, troisième tour préliminaire. Retour, Bordeaux va à Vidéotron, l'Olympique de Marseille qui va à Ostende. On parie sur Bordeaux d'abord.
Mais juste avant, je voudrais quand même souligner ta fulgurance d'hier.
J'ai dit 2-2.
Parce que, mine de rien, tu te fais allumer sur les réseaux sociaux pour ton histoire de rat, mais on réécoute.
Moi, je suis moins optimiste quant aux chances de qualification des Niçois pour la phase de poule de la Ligue des Champions que pour les barrages. Hein. Ouais. Mais moi, je les vois volontiers effectivement marquer et faire match nul. Le 2-2, tiens, j'y parierais bien dessus.
Eh ben, c'est coté à 12, c'est magnifique. Et si ça passe, demain, on pourra se dire qu'est-ce qu'on est bon.
Ouais, oui.
J'ai gagné plus de 1000 euros là-dessus.
Qu'est-ce qu'on est bon. Alors, effectivement, on s'intéresse maintenant à l'Europa League avec Bordeaux qui se déplace en Hongrie pour affronter Vidéotron après une victoire 2-1 à l'aller. Les Bordelais sont encore favoris, même si c'est à l'extérieur. 1,60 la victoire de Bordeaux, 3,30 le nul, 4 la victoire de Vidéotron. Une équipe qui, visiblement, a des soucis à domicile puisque ses trois derniers matchs se sont soldés par un score de parité. Et je pense que Bordeaux est quand même supérieur. Mais attention, le score n'est pas si favorable que ça. Donc il faudra éviter que c'est le premier but. Peut-être que la meilleure solution, c'est de marquer le premier. Du coup, moi, je joue le nul pour largement tripler. Et toi, coach?
Bordeaux qui perd pas, ça n'existe pas.
Si, c'est 1-20.
Avec les deux équipes qui marquent?
Non, pas cher, ça n'existe pas.
Ouais, voilà, c'est ça qui n'existe pas.
Et voilà.
Bon, je vais...
Décide entre le nul et Bordeaux, quoi.
Je vais te suivre. Et qualification de Bordeaux?
Ben c'est pareil. Ils sont, je te dis, ils doivent être en vacances un petit peu là, les bookmakers en ce moment. Il y a moins de cotes que d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? Bon, on va passer. Bon, on va passer sur l'autre match.
Voilà, c'est quand même emmerdant de dire match nul pour Bordeaux. Donc on voit la qualification, ne pas pouvoir jouer la qualification, ne pas pouvoir jouer la victoire de Bordeaux avec le nul. Bon,
c'est dommage. Même... C'est dommage. Je suis d'accord avec toi. On a un petit peu plus de cotes sur Marseille. Marseille qui, après sa victoire 4-2, a montré de belles dispositions offensives. Mais derrière, quand même, il y a des petits réglages à faire. Mais moi, je les vois quand même, les Marseillais, gagner en Belgique. C'est 1,70. En plus, Ostend, lors de la première journée, a perdu 1-0 contre Moucron. Ça doit pas être très bon pour le moral. Et puis, Marseille est au-dessus. Donc, Marseille gagne et les deux équipes marquent 2,60. Marseille plus Germain, 2,45.
Et Marseille qui perd pas avec les deux équipes qui marquent
1,66, mais au moins.
Je m'en contente.
Voilà, parce que tu assures, au cas où il y aurait un match nul, au cas où Marseille encaisserait un, voire deux buts.
Et le doublé de Germain.
Le doublé de Germain.
Moi, je parierais bien là-dessus.
Ouais, ouais, c'est 6.
6
ouais.
Oh, c'est pas très. Ouais. Je pensais que c'était mieux côté.
Mais bon, il a commencé à
faire une statue si jamais il marque un doublé.
Franchement, moi, je vois bien le doublé de Germain ce soir.
Eh ben, écoute.
Ça y est, il y prend gourde.
Ah, bah oui, bien sûr, évidemment. Allez, tous ces paris, les paris de la Dream Team sont à retrouver sur amcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On remercie Christophe pour toutes ces infos. Paris, on revient dans un instant dans l'intégrale foot, dans quelques instants. Les infos, et puis on va évidemment revenir sur l'affaire, le feuilleton. Neymar, à tout de suite sur RMC.
RMC, intégrale foot.